2020, une saison qui démarre en public au Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Merci encore infiniment pour votre présence ce matin. Avec vous tous, nous allons essayer d'y voir plus clair sur l'actualité politique et géopolitique grâce aux lumières de nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, la journaliste Christine Ockrent, le politologue Dominique Régnier et l'homme qui chaque jour dessine le monde. Bienvenue Plantu.
Bonjour.
Au sommaire de ce dimanche 12 janvier, réforme des retraites, happy end ou fiasco, Moyen-Orient, le vrai faux départ des Américains, et puis Charlie Hebdo, 5 ans après l'attentat, qui sont les nouveaux censeurs ? Est-ce le dernier acte, l'épilogue ou l'alali pour cette longue réforme des retraites qui nous semble à tort durer depuis des siècles ? Des siècles que nous vivons avec des métros gris fermés, avec notre dose quotidienne de Philippe Martinez, Laurent Berger, les porte-voix de la Macronie sur nos écrans. Des siècles que nous nous habituons à prononcer les mots H-pivot ou système à points comme s'ils faisaient partie depuis toujours, depuis la naissance de notre vocabulaire. Le fameux H-pivot à 64 ans, le nerf de la guerre, provisoirement retiré du projet de loi, on l'a su hier, afin que l'UNSA, la CFDT, la CFTC acceptent de remonter dans le bateau de la négociation avec le gouvernement et avec le MEDEF. En parallèle, l'équilibre financier du système doit être atteint d'ici 2027 par le biais d'une conférence de financement avec les syndicats mise en place pour travailler jusqu'à la fin avril 2020. Voici donc la possibilité d'un nouvel acte, celui du débat tant syndical que parlementaire, avec l'examen très attendu du projet de loi et la quasi-certitude désormais que le système à points passe, à présent que le chiffon rouge de l'âge pivot a été retiré. Mais un tel scénario relève-t-il du happy end ou du fiasco ? Voyons voir rapidement. Pour Laurent Berger, le patron de la CFDT, ce retrait est une victoire. Il le dit très clairement ce matin dans le JDD. Emmanuel Macron pourra dire, lui, qu'il a respecté son programme de campagne présidentielle, lequel mentionnait la fin des régimes spéciaux et le passage à un régime universel à points, mais pas le fameux âge pivot. Mais son aile droite, celle d'Édouard Philippe, ne peut pas, pour l'instant, se targuer d'avoir mené à bien la réforme que tant d'autres en Europe ont faite depuis belle lurette, à savoir allonger la durée de vie professionnelle pour prendre en compte la nouvelle donne démographique. Voilà qui permettra donc aussi ces prochains jours aux responsables de la droite LR de se faire les chantres de l'équilibre budgétaire, de fustiger un macronisme dépensier à l'image du discours tenu cette semaine par le président du Sénat, Gérard Larcher. Quant à une partie de la gauche, elle pourra continuer de dénoncer la casse du modèle social à la française, considérant que le régime à points dissimule une logique de retraite par capitalisation et va précariser notamment la fonction publique. Le RN, lui, continuera de promettre qu'une fois élu, Marine Le Pen, en 2022, annulera purement et simplement cette réforme. Mais au-delà des postures habituelles, que restera-t-il ? Que reste-t-il au fond de ces périodes houleuses de grands mouvements sociaux à la française ? Derrière les postures, les jeux de rôle, l'image répétitive d'un pays ingouvernable ou mal gouverné ? Un pays qui se divise ou qui se retrouve ? Un pays qui défend son modèle ou qui vit dans une bulle ? Un pays qui avance ou qui recule ? Réforme des retraites ? Happy end ou fiasco ?
En réalité, cet âge pivot, il n'existe que parce qu'il a vocation à sauter. C'est une technique de négociation qui s'appelle d'ailleurs le faux pivot et qui consiste à proposer quelque chose d'inadmissible pour le retirer ensuite et faire passer tout le reste qui est également inadmissible.
Disposé à retirer de son projet de loi le principe de l'âge pivot, le Premier ministre fait un geste en direction des syndicats réformistes dans sa lettre aux organisations syndicales.
C'est une très bonne nouvelle, on a enfin le retrait de l'âge pivot. Ce qui va permettre d'avoir un débat plus serein sur la question de l'équilibre financier, de travailler sur le reste de la réforme pour obtenir des avancées, des garanties, des compensations, et faire de cette réforme, je l'espère, une réforme de justice sociale.
Nous appelons évidemment à poursuivre le mouvement, puisque rien n'a changé dans le courrier que nous a envoyé le gouvernement. Il maintient sa réforme qu'il dit juste et simple. Et puis le débat sur l'âge pivot, c'est un leurre.
Voilà, vous venez d'entendre les patrons de l'UNSA et de la CGT et puis Marine Le Pen au début de cette guirlande sonore. Christine Ockrent, qu'avez-vous pensé de ce qu'on pourrait appeler la dramaturgie de la lettre d'Édouard Philippe aux organisations syndicales qu'on a attendue fébrilement hier, toute la journée, dans un suspense quasiment insoutenable, sur fond de manifestations en baisse, mais enfin, la tempête sociale est toujours là.
C'est une dramaturgie tellement française que ce qui m'a frappé à lire les commentaires des journaux européens, c'est toujours cette stupéfaction de nos voisins, plus ou moins lointains, par rapport à l'attachement que nous portons aux mots. Et donc, il est vrai, soyons honnêtes, que pour la plupart d'entre nous, il y a un moment où on n'y comprend plus rien, si on essaye d'entrer dans le dossier proprement dit. Mais le fait que la focalisation du débat, sa cristallisation, sa crispation, se soit figée autour d'un certain nombre de formules, à commencer par cette histoire d'âge pivot, à commencer par une affaire de régimes spéciaux, alors qu'on a quand même à peine expliqué que le privé fonctionne déjà dans un système à points. Et il y a aussi, et c'était très intéressant, m'a-t-il semblé, dans un effort d'explication culturelle de ce syndrome tellement français, cette idée que le travail est à la fois une valeur essentielle qui nous définit socialement, et c'est en même temps une souffrance de plus en plus insupportable, et qui veut que donc la retraite, qui est quand même un mot qui appelle sur le plan de l'histoire un certain nombre de souvenirs absolument atroces, mais la retraite tout à coup apparaît comme un espèce d'Éden. Et ça aussi c'est très français. Et puis dernière remarque, s'il y a un mot de notre vocabulaire qui semble véritablement faire horreur à la plupart des acteurs du théâtre politique et syndical, donc des acteurs de notre débat public, c'est le mot « compromis ». Alors que, véritablement, ce devrait être, et c'est le principe même de la démocratie, le compromis. Et donc, voilà, moi ce qui me frappe, n'étant pas du tout experte de ce sujet, et très franchement n'ayant pas envie de le devenir, tellement franchement, plus je lis, moins je comprends, mais ce qui me frappe, c'est ça. C'est extraordinairement français, mais le plus grave, me semble-t-il, et il est temps, je crois, d'essayer de comprendre sur le plan politique maintenant quelle est la projection de ce problème dans les mois à venir, les municipales, la présidentielle, c'est l'usure de la confiance vis-à-vis de tous les acteurs. Et ça, la confiance, c'est quand même ce qu'on a plus de précieux dans une démocratie.
Alors sur le papier, Aurélie Filippetti, en effet, maintenant, on rentre dans le temps du compromis. Est-ce que cela veut dire qu'on peut espérer retrouver la confiance ?
Non, absolument pas. La confiance, elle a été brisée. Elle a été brisée par incompétence, par négligence, par dilettantisme et par la brutalité de ce gouvernement dans la manière dont il a voulu mener au pas de charge une réforme qui touche absolument tous les Français. Mener au pas de charge une réforme sociale aussi importante, c'est une brutalité, une violence vis-à-vis de la démocratie. Et la démocratie, ce n'est certainement pas ça. La démocratie, c'est la délibération. Donc, on nous a présenté un projet qui, encore une fois, va mettre à bas un pilier essentiel du modèle social français, enfin, le modèle social d'ailleurs en général, pas seulement français, enfin, le système des retraites est un des quatre grands piliers de ce qu'on appelle évidemment la protection sociale. Donc, on nous propose un changement, une table rase complète, et cela sans aucune concertation préalable avec les corps intermédiaires, c'est-à-dire les organisations syndicales, patronales, etc.
Ça veut dire que pour qu'on comprenne bien, les deux années de travail avec Jean-Paul Delevoye, le fait de passer à ce système à points.
Jean-Paul Delevoye, il a présenté un rapport, il a fait un travail, je dirais, un peu technocratique. Et d'ailleurs, à la fin, personne, Christine Ockrent vient de le dire, n'a compris exactement ce qui allait se passer. C'est une réforme, une contre-réforme extrêmement anxiogène pour les Français. Pourquoi ? Parce que la retraite, c'est pas que les gens ne veulent plus travailler, c'est qu'il y a des gens qui voient l'horizon de la retraite comme l'horizon pour eux de la fin de la souffrance physique. Un ouvrier, une caissière, un employé, c'est une souffrance physique, une souffrance psychologique parfois. Et la retraite, c'est à ce moment-là, on se dit, eh ben voilà, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai donné beaucoup à la société et au fond, je vais pouvoir un petit peu, au moins maintenant, non pas me reposer, mais organiser différemment mon temps et être utile à la société d'une autre manière, par un engagement associatif, par exemple, parfois par un engagement politique, par un investissement dans un cercle familial ou dans un cercle local. Il ne faut pas croire que les gens qui sont à la retraite ne font rien, et surtout pas qu'ils sont pas du tout improductif pour la société.
Puisqu'on a compris au moins deux éléments de cette réforme, c'est ce que j'appelais tout à l'heure ces deux mots auxquels on s'habitue, avec lesquels on s'habitue à vivre, c'est-à-dire d'un côté le système à points et de l'autre l'âge pivot. Vous, sur ces deux aspects-là, vous étiez en opposition avec ce que tente de faire le gouvernement ?
Moi, j'estime qu'on ne fait pas une réforme comme ça sans avoir un vaste débat dans l'ensemble de la société. Pourquoi ? Parce que c'est un changement radical de philosophie. Alors oui, je suis opposée à ce changement de philosophie.
Sur les deux points.
Mais écoutez, la question de l'âge pivot, c'est comme la question des régimes spéciaux. Ça a été des chiffons rouges uniquement agités pour effectivement mettre des choses tellement inacceptables que le gouvernement allait pouvoir reculer dessus. Enfin, c'était écrit d'avance, on le savait, le scénario était c'est un scénario de communication absolument éprouvé.
Donc vous dites comme Marine Le Pen, le faux pivot.
C'était certain parce qu'il allait falloir donner quelque chose à la CFDT pour que la CFDT puisse dire qu'elle avait gagné quelque chose.
Mais c'est de la politique, ça, non ?
Pardon ?
C'est de la politique.
Oui, enfin ça ne résout pas la question de qu'est-ce qu'on va avoir comme retraite, qu'est-ce que les générations qui viennent vont avoir comme retraite, et ça le gouvernement est incapable d'y répondre. Et là c'est vraiment de l'amateurisme et même de l'irresponsabilité. C'est parce qu'au fond ils ne le savent pas eux-mêmes. Christine Ockrent dit on n'y comprend rien, mais je pense que eux-mêmes, d'ailleurs quand on voit les explications de certains ministres, on se dit qu'effectivement ils n'y comprennent rien, parce qu'au fond ils ne savent pas financer, ils ne savent pas expliquer les conséquences financières pour chacun de leurs simulations. Et grosso modo, ce que l'on peut se dire, c'est que si on passe d'un système où on prend les 25 meilleures années pour le privé, les 6 derniers mois pour le public, si on passe d'un système comme ça à un système où globalement on va prendre en compte les points accumulés tout au long d'une carrière, ben évidemment, tout le monde va y perdre. Tout le monde, sauf une catégorie qui sont les très très hauts fonctionnaires, étonnamment d'ailleurs ceux qui ont un peu mis en place cette réforme, les très très hauts fonctionnaires qui eux ont beaucoup de primes, qui ont des primes parfois qui doublent leur salaire de base, et eux, évidemment, comme on va prendre en compte ces primes dans le calcul des points, eux, ils vont y gagner. Mais sinon, à peu près tout le reste de la population va y perdre. Et la conséquence, c'est que ceux qui gagnent très bien leur vie, eh bien, vont avoir tendance à se dire, ma retraite de base va être sans doute amoindrie, je vais prendre une retraite privée, je vais anticiper, et donc je vais, épargner, placer de l'argent, etc., pour pouvoir assurer mon avenir. Mais par contre, les gens qui ont des petits salaires, des salaires normaux, bien, eux, ils vont se retrouver coincés, pris à la gorge. Et donc c'est extrêmement, extrêmement angoissant de se dire que finalement, ce qui était au fond une espèce de patrimoine de chaque Français, ben c'est ça qui est en train d'être attaqué.
Alors cette angoisse française précisément, parlons-en avec vous Dominique Reynier, avec le regard du politologue, est-ce que il faut l'expliquer par une mauvaise gouvernance, ou est-ce qu'on va en revenir de nouveau à cette thématique du peuple ingouvernable? Et puis surtout, comment vous voyez les semaines à venir? Est-ce qu'on va faire l'économie d'une mesure d'âge, notamment?
Alors, sur l'idée que le système de retraite est un pilier de notre mode d'organisation, on peut l'admettre en principe, mais on peut aussi ajouter que ce qui est déterminant, c'est les conditions de sa soutenabilité. C'est pas l'énoncé d'un principe qui suffit. Ce sont les conditions auxquelles ce principe demeure une réalité dans le temps, et en particulier est transférable aux générations futures. Et là, nous avons, le constat qui a justifié cette réforme, c'est que ce système est menacé dans le temps par ses propres déséquilibres internes. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que. Enfin, après, c'est un procès d'intention, mais je ne pense pas qu'on.
Et vous savez par ailleurs que certains économistes, notamment notre ami Daniel Cohen que nous recevons régulièrement, nous expliquent qu'en réalité, le tableau n'est pas si sombre que le disent certains. Donc il y a aussi une bataille de chiffres, ce qui rend encore plus le débat compliqué.
Oui, c'est certainement. En fait, malgré tout, si vous voulez, il y a des éléments qui sont très connus et très solides. On ne va pas refaire les débats qu'on a déjà faits ou qu'on a déjà entendus 100 fois. C'est un peu. C'est vrai que je reconnais compliqué tout cela, mais. En fait, nous avons une situation démographique qui d'ailleurs fait que nous avons la même situation, les mêmes contraintes que nos voisins européens, grosso modo, pour ne pas rentrer dans les détails. Et j'observe d'ailleurs que cet âge pivot qui a été retiré, on verra bien, 64 ans, correspond à la moyenne du départ à la retraite dans la zone euro et en Europe, avec des démographies qui sont les mêmes que les nôtres, mais avec des niveaux de pension qui sont beaucoup plus faibles que chez nous, et puis des taux de remplacement qui sont beaucoup moins favorables que chez nous. Donc je ne sais pas si c'est soutenable, on pourrait en rediscuter, bon, on va faire un débat avec Daniel Cohen qui n'est pas là aujourd'hui, je le ferai avec plaisir une autre fois avec lui-même.
On organisera ça.
Voilà, mais je rappelle aussi que voilà, on a une série de déficits, que la France va emprunter encore cette année 245 milliards pour boucler son budget. Bref, nous ne sommes pas un pays qui cherche comment utiliser ses excédents, hein, donc on a quand même une question de raréfaction des ressources. Bon, ça, je ne veux pas, encore une fois, refaire ce débat qui a été fait 100 fois depuis le début de cette réforme. Par contre, je crois que c'est essentiel, et vous le disiez, Émilie Aubry, la question de l'avenir de ce processus, c'est un moment clé, ça c'est sûr, ça ne fait aucun doute. Si les Français ressortent de cet effort de réforme qu'on peut juger bienvenu, malvenu, on peut contester la méthode ou la louer, si les Français ont le sentiment que les choses se sont mal passées, pour eux, évidemment, nous aurons un motif supplémentaire de redouter l'élection de 2022. Moi, c'est ce qui me préoccupe beaucoup. Et je dirais même, pour ajouter un peu de piment à ça, je dirais que j'ai été surpris du comportement de la CFDT. Je peux comprendre l'intérêt de la CFDT en tant qu'organisation syndicale dans la bataille, la compétition avec la CGT, parce qu'il y a des élections qui ont lieu dans ce champ-là aussi. Je comprends cette bataille-là. Mais je pense que c'est très coûteux ou que le risque est considérable. Je voudrais juste donner un argument. Il y a une sensibilité, il y a une culture de gauche dans cette affaire qui voit effectivement certains tabous, et l'âge pivot en est un, peut-être, avec l'idée qu'il y a des acquis sociaux qui sont que l'on ne peut pas toucher, quelles que soient les conditions par ailleurs réunies, ce qui est une vision très figée de l'histoire, mais ça se défend au nom de principes qui peuvent inspirer une vision de gauche. Il y a une vision de droite qui est très attachée à l'idée de l'équilibre budgétaire et qui est attachée aussi à l'âge pivot. Je ne parle pas d'experts, là, hein, je parle de la culture politique. Et il me semble qu'une partie des soutiens d'opinion à Emmanuel Macron sont aussi dans cette droite-là, des électeurs, hein, de droite modérée, préoccupés par l'équilibre. Et je crains que le retrait de l'âge pivot ne les dissuade ou ne les éloigne électoralement du macronisme. Et le macronisme ayant peu de soutien à gauche, s'il en perd au centre-droit, il lui manquera beaucoup de ressources pour affronter en 2022 un duel qui est annoncé aujourd'hui à tort ou à raison, sachant qu'on ne voit pas comment des candidats de la droite modérée ou de la gauche modérée dans ce débat sur les retraites pourraient émerger d'ici 2022 pour concurrencer ce duel annoncé Macron-Le Pen. Pour le dire de manière très claire, je crains que le retrait de l'âge pivot, sous la pression forte de la CFDT, favorise l'affaissement du soutien électoral de la droite modérée à Emmanuel Macron et que ce soit une cause d'une complication supplémentaire pour 2022.
Vous parlez là de calcul ou de tactique politique. Est-ce que vous avez le sentiment, Christine Ockrent, que dans la gouvernance, j'y reviens, de cette réforme, on a d'abord eu cela, c'est-à-dire du calcul, ou un côté comme ça, partie d'échec ou coup de billard à trois bandes, c'est ce que dit Marine Le Pen, qu'on a écouté au début de cette émission.
Oui, mais c'est ce qu'ont fait tous les gouvernements successifs qui ont touché au régime des retraites. Et je rappelle avec affection à Aurélie qu'elle a fait partie du même gouvernement que Marisol Touraine qui, si je ne m'abuse, a allongé le nombre de trimestres qui comptent pour le calcul des retraites. Et il y a eu auparavant aussi, je crois depuis Balladur, mais encore une fois là on remonte presque à la préhistoire, il y a eu à chaque fois des efforts pour ajuster comme l'a dit Dominique, ce régime des retraites à la réalité économique. Et là, on touche à un autre problème, pardon, c'est qu'on ne s'intéresse pas en France à l'économie. C'est franchement une discipline qui révulse la plupart d'entre nous, et je le dis d'autant plus volontiers que c'est un peu mon cas. Donc, à partir de là, il y a toutes sortes de notions qui sont brassées, avec plus ou moins de bonne foi, par des gens qui défendent leur propre pouvoir, et on le voit effectivement dans cette lutte entre les syndicats, et on sait, en particulier pour Monsieur Martinez, qui va perdre sa moustache si véritablement la CGT perd ce combat. Et donc on entend, et c'est hélas ce qu'on va entendre dans les jours et à venir aussi, ce jusqu'au boutisme de gens qui néanmoins ne représentent qu'une infinie fraction des salariés concernés. Encore une fois, il y a une majorité de gens dans le privé qui fonctionnent avec déjà ce système à point, avec un âge moyen, me dit-on, qui tourne déjà de retraite, qui tourne déjà aux alentours de 63 ans et des poussières. Donc là, on voit comment la cristallisation, encore une fois, de tous ces enjeux de pouvoir fige le jeu politique, et il est vrai, et je partage l'avis de Dominique Régnier, que c'est très préoccupant pour Emmanuel Macron dans la perspective de 2022.
De l'élection présidentielle. Et puisque vous vous adressiez directement à Aurélie Filippetti, dont vous rappeliez en effet qu'elle a été ministre d'un certain François Hollande, est-ce que du moment où nous sommes maintenant, Aurélie Filippetti, le moment de compromis, nous repartons quasiment à zéro, ont dit certains membres du gouvernement, est-ce que ce point où nous en sommes, il vous convient à vous ? Est-ce qu'il est fondamentalement différent de ce qui aurait pu être fait par le précédent, la présente mandature ?
Non, mais bien sûr qu'il est très différent. Pourquoi ? Parce que les gouvernements précédents, bien sûr, ont agi sur les retraites, mais ils l'ont fait dans des directions qui étaient différentes. François Hollande, quand il était président, a fait deux choses très importantes. La première chose, c'est pour les carrières longues, c'est-à-dire les gens qui avaient commencé à travailler à 18 et 19 ans, la possibilité de partir plus tôt. Et ça, ça a été extrêmement important pour plusieurs dizaines de milliers de Français qui ont pu partir à 60 ans parce qu'ils avaient commencé très tôt. Deuxième chose, c'est la pénibilité.
Et ça, c'est remis en cause ?
Non, mais je dis qu'il n'y a pas, Deuxième chose, c'est la pénibilité. Ce que je veux dire, c'est que la réforme de François Hollande, elle allait dans le sens de la justice sociale.
On laisse finir Aurélie Filippetti.
Quand on parle de la protection sociale et du régime social français, on parle de quelque chose qui a été construit par un consensus après la Seconde Guerre mondiale. Un consensus, évidemment, en France, entre les gaullistes et la gauche, mais aussi une prise de conscience à l'échelle internationale que, selon les termes fondateurs de l'Organisation internationale du travail, la Déclaration de Philadelphie, il n'y aurait pas de paix durable sans justice sociale. Ça voulait dire que les travailleurs devaient avoir l'assurance, au moment où ils seraient âgés, de pouvoir bien cesser de travailler en ayant des revenus assurés. Et c'est ça, en fait, qui a présidé à l'esprit à la fois de la création de la sécurité sociale pour la santé, mais aussi justement de notre système de retraite. Donc, la réforme sur les carrières longues. Deuxièmement, la pénibilité, qui semble aujourd'hui, enfin selon les mots même du président de la République, pour lui c'est un concept psychologique, c'est pas du tout quelque chose de psychologique, c'est quelque chose qui est bien physique, et la plupart des gens qui travaillent vraiment, c'est-à-dire qui ne passent pas leur vie dans des réunions, dans des déjeuners d'affaires, etc., ou qui ne vivent pas des revenus du CAC 40 qui ont augmenté de 19% au cours de l'année précédente, ces gens qui travaillent ont, lorsqu'ils sont exposés à des produits chimiques, du travail de nuit, des charges lourdes, etc., développent des symptômes physiques qui leur rend impossible de travailler au-delà de, on va dire, allez, 60 ans ou
alors, on va peut-être quand même préciser que désormais, la pénibilité, la question des retraites progressives, de la carrière des femmes et de l'emploi des seniors vont être au cœur des discussions qui s'ouvrent maintenant.
Enfin, ça aurait dû être la base, quand même. Comment on fait, enfin, si on a à faire une réforme des retraites, comment on fait pour que cette réforme soit juste ? Et donc, pour ceux, évidemment, quand on est, je prends mon cas personnel, en tant que professeur, je ne ressens pas une pénibilité physique dans mon travail, et peut-être que si, ma foi, je suis en capacité, j'aurais envie de continuer à travailler au-delà de 60 ans, peut-être au-delà de 65 ans. Il y a des professeurs d'université qui ont envie de continuer à travailler, mais un ouvrier en bâtiment, je suis désolée, il ne peut pas le faire. Donc c'est cette question-là de la justice. Mais pour reprendre les réformes passées, sous Lionel Jospin avait créé ce qu'on appelle le fonds de réserve des retraites, qui était justement une manière, eh bien, de pouvoir mettre de l'argent de côté pour préparer l'avenir. Dans ce fonds de réserve, il y a aujourd'hui 30 milliards d'euros qui peuvent être utilisés justement pour répondre aux défis démographiques que l'on connaît. Deuxièmement, le ministre du budget de François Hollande, Christian Eckert, l'a bien expliqué sur son blog. On a créé pour la dette de la sécurité sociale ce qu'on appelle la CADES, la caisse d'amortissement de la dette de la sécurité sociale. Et cette CADES est alimentée chaque année par une partie de nos impôts et cotisations à hauteur de 24 milliards d'euros. Or, cette dette sera remboursée en 2024, donc dans 4 ans. Ce qui veut dire que ces 24 milliards d'euros par an seront ou seraient disponibles, là aussi, pour, eh bien, pallier un certain nombre de problèmes de financement qu'on pourrait avoir pour certaines catégories, dans le domaine des retraites notamment. Or, ça, ce sont des données qui n'ont pas été mises sur la table dans la discussion sur la réforme des retraites.
Personne n'a brandi les mêmes chiffres, et c'est cela évidemment qui s'en rend absolument impossible, l'idée même d'un consensus pour cette réforme, et on en finira par là avec vous, Dominique Régnier, puis le regard de Plantu sur cette folle semaine que nous venons de vivre.
En fait, moi, je considère qu'il y a un consensus sur... la nécessité, alors par ce que disait Aurélie Filippetti, sur la justice sociale, il n'y a pas de dissensus. On ne varie pas, on ne se disperse pas sur cet objectif. C'est considéré par, je dirais, la société française, les citoyens comme les représentants, c'est considéré comme quelque chose d'absolument essentiel. Donc on ne varie pas sur l'objectif, on varie sur les moyens de le réaliser, de l'accomplir.
Mais aussi sur un état des lieux économique.
Mais l'état des lieux, c'est l'état du monde aussi, c'est l'état de notre société. Moi, je suis sensible, parce que c'est très émouvant, et je le dis sans aucune ironie ni aucune réserve, au Conseil national de la Résistance, à les références qui sont faites, mais franchement, entre 1945 et 2019, on a changé, c'est peu dire, il s'est passé beaucoup de choses. Et la politique, c'est pas simplement des principes, c'est aussi, encore une fois, les conditions concrètes, matérielles, je vais pas faire un cours de marxisme, mais les conditions concrètes, matérielles de leur réalisation. Ces conditions évoluent-elles ? Elles évoluent, c'est évident. On travaille beaucoup moins qu'autrefois, on vit beaucoup plus longtemps, le monde est beaucoup plus compliqué, il y a une forme de rareté, il y a des discussions nombreuses sur l'allocation des ressources et la répartition des richesses entre nous. Il y a des questions d'injustice. Alors, c'est vrai qu'on peut citer ceux qui passent leur temps à déjeuner ou à jongler avec le CAC 40, mais enfin, je pense qu'ici, ils sont peu nombreux. On a des vies ordinaires, et dans nos vies ordinaires, nous avons des injustices qui sont problématiques. Moi, je suis membre de la fonction publique en tant qu'universitaire. Je ne cache jamais que je suis très embarrassé d'avoir le privilège d'une retraite calculée sur les 6 derniers mois de mon activité, dans toute ma famille, mes amis, etc. C'est plutôt sur des dizaines d'années. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas acceptable. Alors, au fond, est-ce que l'on dit, écoutez, faudra vous y habituer parce que ce sera comme ça. Je crains d'ailleurs que ce soit une issue de cette crise. Ou est-ce que l'on dit, trouvons un moyen pour que ce soit un système égalitaire. Cette réforme, elle avait au moins dans l'intention, je trouve, un intérêt fort, qui était de dire, essayons, je crois qu'on ne va pas y arriver, mais je termine ici, mais essayons de bâtir ensemble un système qui serait égalitaire pour nous tous. Alors je sais bien qu'il y aura toujours une poignée d'individus qui ont une vie un peu stratosphérique, de laquelle nous ne nous rapprocherons pas à supposer que nous le souhaitions.
Allez, terminons cette première partie avec vous, Plantu. Ce matin, dans le journal du dimanche, Laurent Berger dit, dans une période d'hystérie collective, nous avons besoin de sortir de cette situation de blocage, qui fatigue les Français, cette fatigue française ou cette hystérie collective. Comment est-ce que vous la racontez par le dessin ?
C'est une fatigue qui dure depuis plusieurs mois. Déjà, il y a un an, j'ai travaillé beaucoup sur deux petites Marianne qui sont toujours... l'une a un gilet jaune et l'autre n'a pas de gilet jaune. Alors, on pourrait imaginer une avec un petit t-shirt CGT ou CFDT. Mais en tout cas, c'est que des Marianne qui pensent qu'elles sont, elles, Marianne, et elles, toutes seules, et que l'autre Marianne n'a rien compris. Et là, mon boulot de dessinateur, c'est d'essayer de traduire tout ça, alors qu'en fait, on est une seule Marianne. Et pour reprendre ce que vous dites sur les postures, et la... d'ailleurs sur la posture, c'est marrant, parce qu'au journal Le Monde, je me souviens que le directeur du journal Le Monde, André Fontaine, il y a longtemps, il m'avait dit, vous savez, la semaine dernière, j'ai reçu dans mon bureau le délégué CGT, et il m'a dit, demain, je vais vous voir avec tous les ouvriers du livre, et puis on va vous traiter de fasciste. Bon. Mais après-demain, on signera. Et après-demain, on signera. Alors, il était tout sûr. Il me raconte ça comme ça. Il me dit, bon, bah, alors je les ai reçus le lendemain. Effectivement, ils m'ont traité de fasciste. Et le surlendemain, ils ont signé les accords qui étaient prévus. Et là, ce matin, en écoutant France Culture, et je me suis dit, tiens, bah, je vais peut-être essayer de faire un dessin qui montre un petit... une sorte de réchauffement climatique, c'est-à-dire que d'un côté il y a une sorte de grosse banquise avec le gouvernement et avec Macron et puis avec des, j'imagine, des gens de la CFDT
de l'UNSA, de la CFTC
et puis il y a un décrochement. Alors le titre du dessin c'est réchauffement climatique et puis il y a un petit morceau de la banquise qui s'en va avec des manifestants avec un petit moustachu bien connu qui s'en va avec ses pancartes. Et puis comme j'aime bien mélanger Ah, il y a aussi ce dessin que j'avais fait il y a... Malheureusement, il y a des dessins, on peut les avoir faits il y a 6 mois, mais ils sont toujours valables. C'est le médecin qui reçoit un gars qui vient lui demander comment ça va, il regarde les radios, et puis le médecin, il dit, ah ben, j'ai une bonne nouvelle, vous allez vivre jusqu'à 115 ans, mais j'ai une mauvaise nouvelle, je ne sais pas qui va payer votre retraite. Et donc, le gars, il est un peu perplexe. Et pour terminer...
Allez, un dernier dessin.
Bah oui, on parle de l'âge pivot. Mais on n'a pas parlé de l'affaire Bazeneff. Mais il
y a un gars. Je sens le rapprochement.
Bah oui, mais lui, son âge pivot, c'est 14 ans. Il faut en parler quand même.
Merci beaucoup, Plantier. Vous avez une façon de dessiner Gabriel Bazeneff qui est particulièrement. Je n'ose pas prononcer l'adjectif. Merci beaucoup.
Il est facile à dessiner. Quand même.
De l'actualité politique à l'actualité géopolitique, maintenant, cette semaine, sur fond d'actualité américano-iranienne, on a joué à se faire peur, ou plutôt, on a vraiment eu des raisons d'avoir peur.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Si vous avez des ados connectés chez vous, peut-être cette semaine avez-vous, comme moi, vécu ce moment où l'enfant inquiet a surgi dans le salon pour vous demander « Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur les réseaux sociaux ? C'est le début de la Troisième Guerre mondiale. » Aux sources de l'angoisse, depuis l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par les États-Unis, sur TikTok, la nouvelle appli préférée des ados, le hashtag WW3 pour Troisième Guerre mondiale cumule plus de 1 milliard de vues. En résumé, le monde a vraiment craint une escalade incontrôlable du conflit entre l'Iran et les États-Unis. Rappelons que l'Iran a riposté après la mort de son général Soleimani par des tirs de missiles sur des bases américaines, que le monde entier a retenu son souffle pendant les heures qui ont suivi, mais que finalement, appelant à la désescalade, Donald Trump a joué l'apaisement. Cela n'a pas empêché l'ayatollah Ali Khamenei de saluer, je cite, une gifle en pleine face pour les États-Unis, ni la télévision d'État d'annoncer 80 soldats américains tués. Bref, de la com pour dire on est capable de tenir tête aux États-Unis. Enfin, en parallèle, il y a eu bien sûr aussi cette semaine l'affaire du vol Téhéran-Kiev, cet avion qui s'est écrasé, tuant 176 passagers iraniens, ukrainiens et 63 canadiens. Avion frappé par un missile iranien, comme l'a finalement admis Téhéran. Mais bon, pas de Troisième Guerre mondiale pour l'instant, juste une énième évolution des rapports de force au Moyen-Orient et l'éternelle question du vrai faux départ des Américains dans la région. Le Parlement irakien a voté cette semaine l'expulsion des forces de la coalition anti-djihadiste et surtout des 5000 soldats américains en son sein. Les États-Unis, dans une lettre transmise par erreur, ont annoncé préparer leur retrait d'Irak avant de le démentir. En clair, il y a cette drôle de situation où les Américains affichent sans cesse leur volonté de désengagement, mais dans les faits sont toujours là, tandis que pendant ce temps... un autre personnage clé joue une toute autre stratégie. Vladimir Poutine, en visite cette semaine en Syrie, en Turquie, recevant hier Angela Merkel à Moscou pour parler, là encore, du Moyen-Orient. En résumé, quand Trump ne sait pas s'il doit partir ou rester, Poutine, lui, sait fort bien où est sa place.
Nos missiles sont gros, puissants, précis, mortels et rapides. Au peuple et aux dirigeants de l'Iran, Nous voulons que vous ayez un avenir et un grand avenir. L'avenir que vous méritez. Un avenir de prospérité dans votre pays et d'harmonie avec les nations du monde. Les États-Unis sont prêts à embrasser la paix avec tous ceux qui la souhaitent.
Christine, c'est vrai qu'on a souvent du mal à comprendre si Donald Trump, qu'on vient d'entendre, veut la guerre ou la paix au Moyen-Orient. Mais en tout cas, où en est-il, Trump, entre son grand discours de « America first », en clair, on ramène tout le monde à la maison, et l'autre discours, continuons d'être les gendarmes du monde, notamment au Moyen-Orient, et notamment, comme on l'a vu, dans son intervention dans la crise iranienne.
Ben, il est toujours très difficile de comprendre très précisément la position de Donald Trump par rapport au vocabulaire qu'il emploie, et notamment à ses tweets qui sont devenus, et je dis ça sans ironie excessive, mais qui sont devenus son moyen d'expression, c'est-à-dire un nombre de signes limité. Et donc, ça, quand il fait un discours oral, et il en a fait deux fort intéressants ces derniers jours, il brasse toutes sortes de notions qui paraissent contradictoires entre elles, et surtout par rapport à la décision impulsive qu'il a prise de faire assassiner donc Soleimani et son adjoint irakien. Il ne faut pas oublier ce personnage-là qui est absolument
secondaire
clé
mais central,
par rapport à l'Irak. Et pourquoi ? Parce que Trump a vu les images de l'ambassade américaine à Bagdad, ce qui a réveillé en lui, comme chez nombre d'Américains, le cauchemar de 1979, c'est-à-dire l'ambassade américaine à Téhéran. Et il me semble que dans ce que l'on vient de vivre, et je serais beaucoup moins optimiste que vous en parlant au passé simple ou au passé composé, de ce qui s'est passé, on ne peut pas imaginer que tous nos pays accumulent un niveau d'armement tellement sophistiqué. On ne peut pas continuer à penser, sans trop le dire à haute voix, que c'est bien d'en vendre, parce que ça assure l'emploi, à condition surtout que ceux qui les achètent ne s'en servent pas. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas, à un moment donné, une erreur. Et c'est évidemment ce qui s'est passé avec l'avion ukrainien. Il y a d'autres avions civils à l'aéroport international de Téhéran qui ont continué à décoller et à atterrir. Mais il y a un type, gardien de la Révolution, en charge des missiles, le téléphone ne marchait pas. Les explications données hier par le général gardien de la Révolution en charge des batteries antimissiles, etc., vous donnent froid dans le dos. C'est un type, il a analysé, c'était état d'alerte maximum, il pensait que les Américains allaient leur tomber dessus. Il faut voir aussi le niveau d'affaiblissement du régime iranien. Donc,
enfin, certains considèrent aussi qu'il ne faut peut-être pas prendre au premier degré ces explications.
D'accord, mais tout cela pour dire que dans cette région du monde en particulier, où il y a une accumulation d'armements pour certains ultra sophistiqués, à commencer par les armements américains, mais aussi français ou britanniques, les armements iraniens qui sont russes, il y a un coefficient de risque qui demeure extrêmement élevé. Sinon, pour en revenir à Trump, il marque évidemment des points vis-à-vis de son propre électorat. Make America great again. Donc, il efface l'humiliation non seulement de Carter, mais d'Obama, qui a toujours été perçu d'abord par lui, mais aussi par son électorat, comme étant un président faible qui recule, qui dit il y a une ligne rouge en Syrie, et puis qui ne la respecte pas lui-même, etc. Et qui dit c'est Obama qui a dit il faut qu'on se retire du Moyen-Orient. Hein, c'est pas nouveau. Trump dit « on se retire », c'était sa promesse électorale. On voit qu'il veut se retirer, mais chaque fois, il doit renforcer les troupes qui y sont pour protéger les intérêts américains et les bases de la coalition internationale qui, entre parenthèses, est à l'arrêt complet, ce qui permet à Daesh, qui n'a jamais disparu d'Irak,
de reprendre ses
activités. Donc moi, je dirais qu'à ce stade, oui, sur le plan électoral américain, Trump a marqué des points vis-à-vis de sa propre clientèle, pas vis-à-vis de l'opinion américaine qui est plus divisée que jamais. On va le vérifier dans les mois qui viennent. Néanmoins, c'est du perdant-perdant, autant pour les États-Unis, puisque l'Iran conserve ses ambitions nucléaires, l'Iran conserve son emprise régionale, l'Iran qui suffoque économiquement avec des souffrances sociales dont on n'a pas idée, eh bien, le régime tient, même si hier, ça c'était tout à fait intéressant, il y a eu des manifestations à Téhéran,
pour protester contre les étudiants à l'université,
pour protester contre un régime meurtrier à cause de l'avion ukrainien. Donc ça, c'est très intéressant. Mais néanmoins, Trump n'a pas réussi à éliminer la présence iranienne dans tout cet arc chiite, et surtout en Irak, qui devient plus que jamais le pays clé.
Dominique Régnier, dans ce grand jeu de rôle que sont au fond aussi les relations internationales, quel est le rôle dévolu à Trump, celui dévolu à Khamenei et celui dévolu à Poutine, ce troisième personnage dont je parlais au début ?
Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette situation, en tant que non spécialiste de ces questions-là, parce que les retraites, c'est compliqué, mais cette question-là
n'est pas
simple.
Plus simple.
Voilà. D'ailleurs, je n'arrive pas à trouver, peut-être parce que c'est pas possible de l'énoncer, je n'arrive pas à trouver un dessin à peu près clair sur ou quelques hypothèses. Voilà.
Plantu arrive.
Quand j'ai prononcé le mot, naturellement,
souviens ta point qui s'est atteint.
À vous, cher Plantu. Quelles sont, au fond, les possibilités d'évolution d'une situation, sur le plan historique et au fond, dénouement, si possible, d'une telle situation? C'est presque impossible à trouver. Mais des points qui dominent, je trouve, outre ce qu'a dit Christine Ockrent, qui me paraît très important, c'est qu'on commence à voir le caractère extraordinairement dangereux de la situation par les très grandes fragilités des courriers envoyés par erreur de la plus haute administration américaine jusqu'aux missiles envoyés par erreur des Iraniens. Ça dit une vérité sur une situation qui est en train d'échapper à ceux qui nous gouvernent, d'une manière générale. C'est pas étonnant, ce ne sont que des femmes et des hommes, faits de tous les hommes, qui les valent tous et que valent n'importe qui, pour ceux qui voient cette référence chez Jean-Paul Sartre, un peu agité, un peu secoué aujourd'hui, mais qui avait écrit dans les mots une très belle conclusion. Eh bien, c'est une grande fragilité. Il n'y a pas véritablement de pilotage. Les Américains sont quand même, je trouve, moi, en difficulté en raison d'un président qui annonce un retrait, qu'il commence à mettre en œuvre, et puis après, on ne sait plus très bien, parce qu'il y a un déplacement plutôt vers le Koweït. Mais en effet, la Russie, la Chine aussi, jouent un rôle croissant, et ce ne sont pas forcément de bonnes nouvelles. Mais je voudrais aussi ajouter, puisque vous parliez de TikTok, je voudrais redire que TikTok, qui a été créé en 2016, est un réseau créé par les Chinois, qui aujourd'hui a séduit 800 millions de comptes d'adolescents. Il y a des soupçons importants d'aspiration des données par la Chine sur ces adolescents. Et puis, je voudrais aussi dire, parce que ça, c'est le côté Daesh. Daesh a investi TikTok immédiatement et fait de la propagande auprès des adolescents de recrutement sur TikTok avec une efficacité qui préoccupe maintenant tous les services de renseignement. Ceci pour dire qu'il y a une activité non seulement permanente, mais peut-être même un retour de l'activité de Daesh dans ce grand désordre et cet échec, aujourd'hui en tout cas, de la politique américaine et des Occidentaux, avec donc un risque évidemment considérable pour notre futur. C'est un peu le point qui me paraît clé. Je voudrais juste ajouter, Émilie Aubry, un autre aspect de cette affaire qui est documenté dans la presse. On a lu beaucoup de choses à ce sujet, qui est la multiplication des drones. De ces avions pilotés à distance et capables de donner la mort. C'est un nouveau monde qui commence. Il y a des milliers de drones, désormais, peut-être même des dizaines de milliers, qui sont en activité, qui peuvent donner la mort. Nous sommes en train de passer dans un âge où la guerre sera une guerre de robots, mais frappant aussi des humains, où les questions éthiques de responsabilité, de conscience de ce qui se passe, du geste que l'on accomplit, etc., se posent d'ailleurs beaucoup, notamment parmi les militaires. Je voudrais juste le souligner pour ne pas être injuste à leur égard. Mais c'est un nouvel âge qui commence. Et donc là, l'idée de connaître l'évolution d'une telle situation, avec tous ces facteurs particulièrement nouveaux et radicaux, me paraît absolument essentielle.
Allez, pour garder un moment, bien sûr, pour notre troisième partie, pour parler de Charlie Hebdo, on va conclure avec vous, Plantu, sur ce nouvel âge de la guerre qui commence, dont parlait à l'instant Dominique Régnier. Est-ce qu'on arrive à en rire par le dessin ?
Il faut toujours essayer de raconter justement par le dessin. C'est-à-dire que j'ai dessiné un ayatollah sur son tank son tank écrase un drapeau irakien. En face de lui, il y a un tank de Trump qui écrase lui aussi un drapeau irakien. Il faut quand même savoir que c'est quand même deux pays qui sont pas chez eux. Et puis ce tank est prolongé par une sorte de centrale nucléaire qui elle-même, avec le canon, ressemble à un minaret. Le minaret tourne autour d'un avion ukrainien qui explose et le canon se retourne contre celui qui a envoyé l'obus, et c'est-à-dire l'Iran. Et moi, je pense à ces débuts de manifestation des opposants, et ça me rappelle, en 82, vous savez, il y avait un général qui s'appelle Galtieri, en Argentine, et emportés par l'élan, ils avaient envahi les Falklands, on avait appelé ça la guerre des Malouines, en 82. Et finalement, ils ont raté leur coup, et ils ont, du coup, la junte a explosé, et ils ont été remplacés par un début de démocratie. Et moi, je me demande s'il ne pourrait pas y avoir un début de sursaut, et en plus, pour terminer
là,
sur...
Vous comparez Donald Trump à Margaret Thatcher.
Oui,
pas le même genre, mais...
C'est pas détendre tous les deux. Et pour terminer, je voudrais quand même rendre hommage, quand même, on a deux scientifiques, chercheurs qui sont quand même toujours en tôle, en Iran, Fardira Adelka et Roland Marshall. Et je pense que quand même, ils sont... Alors évidemment, ils sont suspects vis-à-vis des Iraniens. Et évidemment, alors je fais des ayatollahs qui sont en train de regarder dans le sac de la fille, de Farida, et ils voient un passe-navigo. Ils disent, ça fait un mois qu'il y a des grèves partout, il n'y a pas de train qui roule. Et ils ont un passe-navigo, c'est pour vous dire à quel point ils sont suspects.
Très brièvement, Aurélie Filippetti.
Moi, je trouve quand même très, très faible, très, très timide la réaction des Européens vis-à-vis de Donald Trump, qui est quand même le principal responsable là de l'escalade. Deux choses, évidemment, comme l'a dit Dominique Régnier, l'utilisation des robots tueurs, qui est un enjeu majeur en termes de droit international. C'est une question éthique qui agite évidemment tout le monde, mais Donald Trump a quand même menacé l'Iran de bombardement sur les sites culturels, ce qui est tout simplement, en droit actuel, un crime de guerre. Donc cet individu se comporte comme un criminel de guerre et menace de crime de guerre, et face à ça, on a une réaction quand même, on n'a pas eu de condamnation officielle de ce qu'a fait Donald Trump.
L'UNESCO.
Oui, l'UNESCO. Mais je veux dire, au niveau européen ou français.
Ses propos ont été retirés.
C'est quand même incroyable.
Écrasé par son entourage.
Et c'est quand même lui qui a réussi cet exploit de souder maintenant le peuple iranien autour de son régime, alors qu'au cours
même
des derniers
comme
mois,
ces manifestations hier
vraiment,
dont parlait Christine.
Oui, heureusement, mais il y avait vraiment des manifestations contre le régime iranien. Et aujourd'hui, avec son attitude va-t-en-guerre et irresponsable, eh bien, il a créé une forme de sentiment de communauté, de solidarité au sein de l'Iran.
À l'égard, dans les 10 minutes qui nous restent pour parler de cette une de Charlie Hebdo, car la semaine a aussi été marquée par le 5e anniversaire de l'attentat et notamment aussi l'anniversaire des grandes manifestations du 11 janvier 2015, avec ce numéro cette semaine de l'hebdomadaire satirique qui fait débat, avec ce smartphone géant affichant les logos de Facebook, Twitter et Snapchat, écrasant la langue et les bras d'un dessinateur. Et ce titre, Nouvelle censure, nouvelle dictature, c'est un dessin qui est signé Coco. Et je propose qu'on écoute Rhys, qui a accordé cette semaine une interview à nos confrères de France Info.
La censure aujourd'hui, elle est plus étatique, elle s'est privatisée. Et avec les réseaux sociaux, elle s'est démultipliée. C'est-à-dire que n'importe qui peut lancer une pétition sur Internet, sur Facebook. Ça peut être assez terrifiant, en fait. Parce que n'importe qui peut se croire autorisé à lancer des espèces de fatwas comme ça, selon son bon plaisir. Donc je pense qu'on a affaire, je vais pas dire un nouvel ordre moral, mais quand même un nouveau moralisme qui s'installe et qui est de plus en plus, pas revendicatif, mais parfois menaçant, quoi. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on croit qu'en défendant la liberté d'expression le plus vigoureusement qu'on espère, tout le monde va adhérer à ça, et finalement, il y a comme si la liberté faisait peur, en fait. Et vous voyez apparaître des nouveaux censeurs, en fait. Comme si, quand des gens sont libres, quand ils sont trop libres, ça inquiète, ça gêne, et il faut tout de suite verrouiller, stigmatiser, montrer du doigt. Voilà. Donc c'est étonnant de voir que dans cette époque, on est quand même très libre, émergent de la part, je ne vais pas dire des citoyens, des désirs de censure.
Plantu, c'est vrai qu'on est dans cette époque ou période paradoxale. Jamais eu autant de liberté et de possibilité de s'exprimer, par les réseaux sociaux notamment, et pourtant on n'a jamais autant reparlé du retour de la censure.
Oui, et déjà quand Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, m'avait aidé à construire cette association qui s'appelle Cartooning for Peace, on a réuni des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques et athées, il m'avait parlé du rôle des réseaux sociaux. Mais moi, en 2005, je savais pas ce que c'était qu'un réseau social. Et finalement, on s'est rendu compte que cette pression, ces fatwas, qui se sont dirigés d'abord contre les dessinateurs danois, et après contre les dessinateurs de Charlie Hebdo jusqu'à la tragédie de 2015. En fait, ça a pris des proportions telles que maintenant, il y a des nouveaux procureurs qui ne disent pas leur nom d'ailleurs. Il faudrait quand même se poser une bonne fois la question, pourquoi on laisse des gens, comme si c'était de la délation dans les années 42 en France, des gens qui ne disent pas leur nom, mais qui dénoncent, mais qui ne signent pas de leur nom. Et le choc récent depuis le mois de juin, c'est le fait que le New York Times ait décidé de prendre un dessin sur le web sans demander l'avis d'un dessinateur qui s'appelle Antonio. Antonio fait un dessin. Il fait un dessin sur Trump que moi, j'aurais pas dessiné, mais moi que j'admire parce que le dessin est magnifique. Trump a une kippa. Je connais le langage des interdits, maintenant, les procureurs. Si on dessine un président des États-Unis avec une kippa, vous passez dans la trappe antisémite. Et ça, ce dessin a été repris sans qu'on lui demande. Il fait un dessin, Antonio, il fait des dessins pour le journal L'Espresso à Lisbonne. Sans qu'on lui demande son avis, c'est retrouvé sur le New York Times. Le New York Times se rend compte que les réseaux sociaux désapprouve, Trump prend son téléphone, il dit « mais qu'est-ce que c'est que ce dessin ?» Et à la fois, à la fin, ce gars est traité par toute la planète comme antisémite, alors que le gars, je le connais depuis 30 ans, il n'est pas antisémite. Du coup, le New York Times décide de suspendre tout dessin imprimé dans le New York Times, et je suis étonné.
Personne n'est revenu sur cette décision.
Mais non, et Chapat, le dessinateur qui travaillait depuis 20 ans au New York Times, ne peut plus faire des dessins dans le New York Times parce que la pétoche, la peur, la trouille devant la puissance des réseaux sociaux a fait que les rédacteurs en chef regardent leur pompe et sont pas capables de défendre la liberté d'expression.
Ça dit, ce qui est intéressant dans cette une de Charlie Hebdo, Aurélie Filippetti, c'est que Rice, au fond, lance deux débats. À la fois, le retour de la censure à cause des réseaux sociaux, ou d'une certaine manière, nous auto-censurons pour ne pas nous faire insulter, je dis nous, mais bien sûr vous aurez compris à quoi je fais référence, pour ne pas nous faire insulter. Et puis il lance aussi un débat sur le politiquement correct. Est-ce que pour vous ce sont les mêmes débats?
Pas exactement. Sur la censure, évidemment, il faut préciser, c'est une censure qui n'est plus, enfin en tout cas dans nos démocraties, parlons uniquement de démocratie, c'est pas une censure d'État, bien entendu, c'est une forme de peur qui nous saisit, qui peut nous saisir finalement tous, face à l'interprétation qui va être donnée par des réseaux sociaux qui propagent à une vitesse astronomique les fausses informations et les mauvaises et les détournements, en fait, les manipulations de fausses citations ou de dessins. Donc ça, c'est une peur. Donc ça crée des phénomènes d'autocensure. Et puis après, il y a ce qu'on appelle, alors, à mon avis, le propos. Enfin, moi je contesterais ce mot de politiquement correct parce que le politiquement correct, c'est au fond un terme qui a été utilisé par des gens très conservateurs, très réactionnaires, en réaction à justement une volonté de mettre un terme à certains, par exemple des blagues sexistes, des blagues racistes ou des blagues antisémites. C'est pas de la liberté d'expression de dire ah ben on a le droit de faire des blagues sexistes ou des blagues racistes. Non, on peut pas défendre la liberté d'expression dans ces cas-là. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire au fond toujours défendre la liberté d'expression quand on attaque uniquement ceux qui sont déjà les dominés en quelque sorte.
Ça veut dire que tout ne vous va pas dans ce que écrit Rhys cette semaine lorsqu'il dit par exemple, aujourd'hui, il faut apprendre à dire merde aux associations tyranniques, aux minorités nombrilistes, aux blogueurs et aux blogueuses qui nous tapent sur les doigts comme de petits maîtres d'école.
Mais ça fait, y a une discussion qui est tout à fait légitime. Si, par exemple, quelqu'un tient un propos et dit c'est une blague, moi, en tant que citoyenne, j'ai le droit de dire votre blague est de mauvais goût. Et par ailleurs, pourquoi vous vous en prenez toujours aux mêmes catégories? Bon, donc ça, j'ai le droit, ça fait partie du débat public. En revanche, cette forme très pernicieuse d'autocensure qui consiste à dire « Ouh là là, on n'a plus le droit de parler, par exemple, de religion, on n'a plus le droit de critiquer la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs », ça, évidemment, c'est un gros problème. Mais les restrictions à la liberté d'expression qui existent dans notre pays et ailleurs, hein, en ce qui concerne, par exemple, le racisme, l'antisémitisme, aujourd'hui l'homophobie, etc., ça me semble complètement, complètement légitime. Et je dois dire que par ailleurs, ce qui me choque beaucoup, indépendamment des réseaux sociaux, c'est qu'il y ait des chroniqueurs, en l'occurrence un, qui continuent à la télévision alors qu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Et lui, il n'est pas victime de censure, ça me choque beaucoup.
Un certain Éric Z, Dominique Régnier.
Oui, moi j'ai un désaccord profond là, avec ce que vous venez de dire, Aurélie, sur la liberté. Elle ne peut pas se découper comme ça, ni se circonscrire comme
c'est
ça.
C'est dans la loi, hein, c'est pas mon point de vue, c'est la loi française qui dit qu'il y a certaines...
À mon tour de vous répondre, Aurélie, sur ce propos-là. La loi de 1881, elle est magnifique, parce qu'elle fonde la liberté d'opinion et d'expression avec une limite très claire, qui est l'incitation à la haine et à la violence. C'est une très grande loi de liberté. Nous sommes en train de tout perdre, et nous le faisons collectivement. La liberté, elle se meurt parce que nous sommes passés de l'imprimerie aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont une implantation globale. La circonscription n'est pas celle de la France. Et donc les groupes, les sensibilités, les réactions, elles sont universalisées. Et au fond, ce qui nous faisait tenir jusqu'ici, c'était, on le comprend aujourd'hui, de grandes lois de liberté, plus une presse forte avec des journalistes qui, compte tenu de leurs différences d'opinion, assuraient la pluralité de la représentation de nos idées. Et si bien que sur une lecture, nous étions blessés, sur une autre, nous étions enthousiastes, un coup, nous étions en colère, un coup, nous étions réjouis. Et c'est ainsi que la liberté vivait. Aujourd'hui, ce que l'on comprend avec les réseaux sociaux, c'est que nous ne sommes pas du tout disposés à la liberté. Il y a dans nos sociétés, et nous en faisons partie chacun à notre tour, hélas, une disponibilité à mettre en cause la liberté de l'autre pour des motifs qui sont jugés par soi-même comme légitimes. Mais au total, si la liberté qui disparaît, c'est vraiment un drame que nous allons payer très cher.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Christine Ockrent, Aurélie Filippetti, Dominique Régnier et Plantu, merci à vous d'être venus particulièrement nombreux, je dois le dire, pour ce début d'année 2020. Il faudra revenir, bien sûr, à l'Odéon. Le débat continue tout de suite sur France Culture à 12h45 avec Marc Weitzman dans Signe des Temps, qui pose précisément la question islamisme, où en est-on 5 ans après. Mais tout de suite, nous avons bien sûr rendez-vous avec Les Bonnes Choses dans un instant, croquons des amandes made in France avec Caroline Brouet. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain 11h évidemment sur France Culture. Bonne semaine à tous.